séance sur la tolérance, John Rawls, donc par Denis Collin.
Oui, bonsoir. Bien, je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Je dois parler donc de la tolérance chez Rawls, mais peut-être plutôt à partir de Rawls. Hein. La théorie de la justice est effectivement un livre important. 71, il est traduit en français en 87, avec beaucoup de retard, parce que c'est un livre qui a une grande influence, qui a entraîné un débat avec des réponses à Rawls, des livres contre Rawls, des réponses de Rawls assez contradicteurs, avec d'ailleurs des rectifications que fait Rawls à des moments divers. C'est l'exemple d'un vrai débat philosophique hein, qui s'est tenu autour de Rawls. Et à lui seul, Rawls mériterait sûrement un exposé plus détaillé. Moi, je vais me contenter de parler d'un tout petit chapitre de la théorie de la justice qui est consacré à la tolérance à l'égard des sectes intolérantes. Voilà. Alors, dans ce petit chapitre, je serai obligé de dire quelques mots de la théorie de Rawls en passant, hein, mais je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Dans ce petit chapitre de la théorie de la justice, Rawls vise directement les sectes religieuses qui refusent le pluralisme, et son propos est relativement général puisqu'il recoupe au fond la question de la liberté à accorder ou non, au fond, aux ennemis de la liberté. Vieille affaire, hein, c'est Saint-Just qui avait lancé ce mot d'ordre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est-à-dire dans quelle mesure on doit laisser les ennemis des droits constitutionnels jouir des droits constitutionnels. C'est un sujet donc qui est très très général, c'est presque un grand classique, dont les apories sont connues. Hein. D'un côté, si on admet la liberté pour les ennemis de la liberté, ben on admet que la liberté puisse être supprimée par les ennemis de la liberté. D'un autre côté, si on refuse la liberté aux ennemis de la liberté, ben c'est la liberté qu'on met en sommeil, et qui finalement pourrait s'éteindre d'elle-même, faute d'avoir été assez vigilant. Alors, pris dans son sens très général, hein, ce problème pourrait bien ne pas avoir de solution satisfaisante, et au mieux, nous serions renvoyés à une casuistique. Hein. Ça dépend des cas. Ce que je me propose ici, c'est premièrement d'exposer la thèse de Rawls, deuxièmement d'en montrer les limites, et troisièmement, de tirer quelques leçons de tout cela qui concerne la situation particulièrement difficile que nous vivons en ce moment. Alors, tout d'abord, la thèse de Rawls. John Rawls part du cas général des partis politiques, qui défendent, dit-il, des doctrines qui les obligent à supprimer les libertés constitutionnelles quand ils en ont le pouvoir. Alors, évidemment, il a en tête les partis communistes, hein, nous sommes en 1971 quand il écrit ce livre, donc on est encore dans la période dite de la guerre froide. Et puis il a aussi en tête, parce que c'est un problème aux États-Unis, la question des groupes d'extrême droite, est-ce qu'on a le droit de les laisser défiler les néo-nazis, etc. Problème récurrent hein, qui percute le débat en philosophie politique américaine. Et il affirme, il peut sembler que dans ces cas, la tolérance est en contradiction avec les principes de justice, ou en tout cas n'est pas exigé par eux. Les principes de justice, pour Rawls, se résument à deux. Le premier principe, c'est le principe d'égale liberté pour tous, qui a en son cœur la liberté de conscience. Et le deuxième principe, c'est ce qu'il appelle le principe de différence, qui dit que les inégalités ne sont justifiées que si elles profitent en premier lieu aux plus défavorisés. Alors, donc, un certain nombre de groupes qui prônent la mise en sommeil ou la suppression des libertés constitutionnelles ne pourraient pas bénéficier des droits constitutionnels. Ça pourrait sembler contraire au principe de justice. Alors, au lieu de traiter directement cette question dans toute son ampleur, il propose de se consacrer à la question de la tolérance religieuse. Et à partir de là, il estime pouvoir fournir une argumentation qui pourra être étendue aux autres cas. J'en profite pour dire que Rawls, c'est intéressant aussi parce que c'est quelqu'un qui apporte le plus grand soin à l'argumentation et aux méthodes d'argumentation. C'est peut-être un des avantages de la philosophie analytique, c'est qu'il a appris à essayer de clarifier systématiquement le sens de ses énoncés. Alors la position de Rawls se développe en deux moments principaux. Premier moment, est-ce que les sectes intolérantes, là il parle des sectes, mais c'est dans le sens américain du terme, hein, les sectateurs d'une certaine doctrine, tout simplement, est-ce que les sectes intolérantes sont fondées à réclamer pour elles-mêmes la tolérance? Première question. Deuxième question, si les intolérants ne sont pas fondés à se plaindre de l'intolérance à leur égard, un gouvernement démocratique est-il fondé à les interdire? C'est pas la même question, hein. Et dans quelles conditions? Et puis, il va essayer de définir dans quel but pourrait-on légitimement restreindre les libertés des intolérants. Alors, pour ce qui concerne le premier point, la réponse de John Rawls est claire. Je cite, « Il semble qu'une secte intolérante n'ait aucun droit de se plaindre si on lui refuse une liberté égale à celle de tous les autres. Du moins, c'est ce qui résulte quand nous admettons que personne n'a le droit d'objecter à ce que font les autres, quand ce qu'ils font est conforme aux principes que nous choisirions dans les mêmes circonstances pour justifier nos actions à leur égard. Le droit qu'a une personne de se plaindre est limité aux violations des principes qu'elle reconnaît elle-même. » Un groupe religieux qui se plaint de ne pas jouir de la liberté religieuse n'a le droit de se plaindre que si lui-même admet la liberté religieuse. Mais un groupe religieux qui considère que dès lors...
N'en faites pas, c'est une alarme. Non mais...
Dès lors que ce groupe est majoritaire, s'il interdit les autres religions, et il y a beaucoup d'exemples dans ce domaine, eh bien, un tel groupe, donc, ne peut pas revendiquer pour lui la liberté religieuse. Et ce principe général est un principe conforme au principe d'universalisation. Ce que je le veux pour tout le monde. Principe d'universalisation qui sous-tend la morale kantienne dont John Rawls se réclame explicitement et qui sous-tend à vrai dire toute morale un peu conséquente. Alors l'objection que pourrait faire un membre d'une secte religieuse est que, un, il agit de toute bonne foi et que, deux, il ne demande pas pour lui-même quelque chose qu'il refuse aux autres puisque, admettons que d'après lui, ils suivent le principe selon lequel tous doivent obéir à Dieu et reconnaître la vérité. Ben, il demande bien ce principe pour tout le monde. Ce principe est parfaitement général, et en agissant sur cette base, il ne fait pas d'exception pour son propre cas. De son point de vue, il suit le principe correct que les autres rejettent. Donc, un groupe religieux, au fond, pourrait dire, moi aussi j'ai une position universaliste, puisque je veux que tout le monde croit en Dieu, d'abord parce que c'est la vérité, et que vous devez le suivre, et donc je ne fais pas d'exception pour moi d'ailleurs, moi-même je crois en Dieu, donc je vais faire pareil. Effectivement, un fondamentaliste religieux, qu'il soit chrétien ou musulman, hein, je vais revenir pas mal là-dessus quand même, hein, demande que les autres suivent la loi de Dieu, et rien d'autre, hein. Et donc il est bien universaliste à sa manière. Hein, je reviendrai sur l'universalisme catholique, par exemple. Catholique, ça veut dire universaliste, hein, par définition. Et sur l'universalisme musulman. Alors, la réponse de Rawls, qui pourrait nous convaincre, ne nous convainc tout de même que difficilement, ne convaincra que difficilement un fondamentaliste religieux. Et sa réponse est celle-ci. Du point de vue de la position originelle, aucune interprétation particulière de la vérité religieuse, je cite, hein, j'explique ensuite, ne peut être reconnu comme obligatoire pour les citoyens d'une manière générale. On ne peut pas non plus accepter qu'il y ait une seule autorité ayant le droit de trancher les questions de doctrine théologique. Chaque personne doit insister sur son droit égal à celui de tous de décider ce que sont ses obligations religieuses. Elle ne peut pas abandonner ce droit à une autre personne, une autorité institutionnelle. Alors qu'est-ce que Rawls appelle la position originelle ? C'est une reformulation de la doctrine du contrat social telle qu'est exposée chez Rousseau. Pour décider quelles sont les lois justes, eh bien, Rawls imagine que ces lois sont décidées par une assemblée d'individus rationnels, d'individus qui connaissent les grands principes de la philosophie et de l'économie, nous dit Rawls, mais qui sont sous voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ignorent leurs particularités propres. C'est-à-dire qu'ils ignorent s'ils sont un homme ou une femme, s'ils sont catholiques, bouddhistes ou athées, ils ignorent s'ils ont 20 ans ou 80 ans, etc. Ce sont donc des purs êtres de raison, et on va imaginer que des purs êtres de raison, uniquement soucieux d'eux-mêmes, doivent décider quelles seront des lois justes. Cette idée de voile d'ignorance, elle est pour Rawls la condition même pour que des décisions justes soient prises. Vous savez bien que la justice a les yeux bandés. Et c'est le voile d'ignorance, il signifie par exemple que les jurés, le juge ne doit pas connaître les accusés ni les parties civiles dans un procès. Le voile d'ignorance, c'est le fait qu'on met les enfants sous la table pour tirer la galette des rois. C'est donc quelque chose, cette idée de voile d'ignorance, c'est quelque chose qui est assez commun et que Rawls réutilise comme méthode heuristique pour faire comprendre comment on devrait décider quels sont les principes justes. Et les individus placés sous ce voile d'ignorance donc décideraient des principes de justice que Rawls développe en détail dans la théorie de la justice, principe d'égale liberté pour tous. Je vais laisser le second principe de le principe de différence, mais vous voyez bien que si vous ignorez à quoi vous croyez, vous allez nécessairement penser que la moins mauvaise des solutions, c'est la liberté religieuse. Parce qu'admettons, je ne sais pas, vous dites, tiens, je suis catholique, donc seuls les catholiques ont le droit, on voit au chapitre. Pour des catholiques, c'est normal. Seuls les catholiques, on voit au chapitre, et les autres doivent se plier. Manque de chance, vous sortez du voile d'ignorance, pas de chance, j'étais athée. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rawls dit, on va choisir, il s'appuie sur la théorie des jeux, il dit, on va choisir la solution qui maximise la plus mauvaise des solutions, cette théorie du maximin, c'est-à-dire, je vais choisir la liberté religieuse qui au moins me garantit la possibilité, dans tout cas de figure, de pratiquer ma religion ou de n'en point pratiquer si je n'en ai pas. C'est ça l'idée de voile d'ignorance. Donc, des individus placés sous voile d'ignorance adopterait ce principe d'égale liberté pour tous et adopterait le principe de la liberté de conscience comme principe fondamental. Ce principe, d'ailleurs, nous dit Rawls, c'est celui d'une société pluraliste et il a l'avantage de fournir ce qu'il appelle un consensus par recoupement. Dans une société pluraliste, nous avons tous des conceptions du bien différentes. Je ne sais pas, vous pouvez penser que le sens de votre vie sur Terre, c'est de préparer l'au-delà, donc vous allez vous conduire un bon chrétien, ne pas oublier de ne pas manger de viande le vendredi saint, d'aller à la messe tous les dimanches matins, etc. Parce que le sens de votre vie, c'est la vie éternelle. Puis si vous êtes athée, vous penserez que la vie, il n'y en a qu'une et qu'il faut en profiter. Voilà. Et dans une société pluraliste, toutes ces conceptions du bien doivent pouvoir cohabiter. Et donc, ce que dit Rawls, c'est qu'une théorie politique doit permettre de découvrir ce qui est fait consensus entre toutes ces conceptions raisonnables, dit-il, du bien. Et la liberté de conscience, la liberté religieuse, fournissent les éléments de ce consensus par recoupement dans une société pluraliste. Ce faisant d'ailleurs, Rawls aborde la question de la tolérance en présupposant que tous les individus acceptent dans l'ordonnancement de la vie politique la priorité du juste sur le bien. Ça, c'est quelque chose d'important. Nos conceptions du bien passent après la conception de la justice pour toute la société. Et elles ne peuvent pas aller au-delà. Alors là, il y a un présupposé très fort. Rawls a l'air de dire, oh, tout ça, c'est pas, ça va de soi, mais ça va pas de soi du tout, j'essaierai de le montrer. Je cite Rawls. En fait, un individu exerce sa liberté par sa décision d'accepter quelqu'un d'autre comme autorité, même lorsqu'il considère cette autorité comme infaillible, puisque ce faisant, il n'abandonne en aucune façon sa liberté de conscience égale à celle de tous et conforme aux droits constitutionnels. Car cette liberté en tant qu'elle est garantie par la justice, est imprescriptible. Voilà, ça c'est des choses qui, pour Rawls, ne sont pas à mettre en cause. La liberté est une garantie par la justice, est imprescriptible. Une personne est toujours libre de changer de foi, et ce droit ne dépend pas de l'exercice régulier ou intelligent de son pouvoir de choisir. Nous pouvons observer que l'idée que les hommes ont une liberté de conscience égale pour tous est compatible avec l'idée que tous les hommes devraient obéir à Dieu et reconnaître la vérité. Le problème de la liberté est de choisir un principe grâce auquel on puisse réglementer les revendications que les hommes s'adressent mutuellement au nom de leur religion. Voilà. Et le grand problème de Rawls, c'est comment trouver des principes qui permettent de réglementer les revendications que les diverses parties de la société s'adressent les unes aux autres, qu'il s'agisse de matière religieuse, mais il l'abordera aussi en matière sociale, c'est de trouver un ordre, hein, une société juste pour lui, il l'appelle encore société bien ordonnée. Admettre que la volonté de Dieu devrait être suivie et la vérité reconnue ne suffit pas à définir un principe d'arbitrage. De ce qu'il faille se conformer aux intentions de Dieu ne découle pas que n'importe quelle personne ou institution ait autorité pour s'ingérer dans l'interprétation que fait autrui de ses propres obligations religieuses. Ce principe religieux ne justifie aucune exigence d'une plus grande liberté légale et politique pour soi-même. Les seuls principes qui permettent des revendications à l'égard des institutions sont ceux qui seront choisis dans la position originelle. C'est très clair, hein ? Aucune religion ne peut faire valoir ses principes au-dessus du principe de la liberté de conscience. Alors, Rawls soutient ici donc que la vérité religieuse doit d'une certaine manière se soumettre aux principes de justice des sociétés bien ordonnées, c'est-à-dire des sociétés libérales, démocratiques. Et donc, une secte religieuse n'est fondée à se plaindre que si elle-même admet la loi issue de la position originelle, et elle doit donc admettre que cette loi est supérieure à la loi divine. En aucun cas, une secte intolérante, donc, ne peut se plaindre de l'intolérance, puisqu'elle n'admet pas que sa loi est inférieure à la loi commune, donc les intolérants doivent se taire s'ils se plaignent. Si vous fermez, je ne sais pas, au hasard, une mosquée salafiste, le type vient se plaindre en disant « Comment vous violez la laïcité, vous interdisez la liberté religieuse ?» Eh bien, on est fondé à lui dire « Monsieur, vous ne reconnaissez pas la liberté religieuse, donc vous ne pouvez pas vous plaindre, vous. Nous, nous avons le droit de nous interroger, mais vous, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. » Bon, voilà. Deuxième moment. Que les intolérants ne puissent pas se plaindre de l'intolérance ne nous permet nullement de les interdire. Voilà. La question, dit Rawls, alors est de savoir si le fait que quelqu'un soit intolérant envers autrui est une raison suffisante pour limiter sa liberté. Alors, il peut sembler évident qu'on ait le droit de ne pas tolérer les sectes intolérantes dans au moins une circonstance, à savoir, dit Rawls, quand on croit sincèrement et avec de bonnes raisons que l'intolérance à l'égard des intolérants est nécessaire à sa propre sécurité. Ce droit, dit-il, est une conséquence assez évidente, puisque dans la position originelle, quand la position originelle est définie, chacun serait d'accord sur le droit de la conservation de soi-même. Hein ? Si quelqu'un vous dit « je vais t'étrangler », je n'ai pas à tolérer l'étrangleur, tout de même. Hein ? Car le droit de se conserver soi-même, lui, est un droit absolument imprescriptible. La justice n'exige pas que les hommes restent sans rien faire pendant que d'autres détruisent les bases de leur existence. Hein ? Alors, cette réponse de Rawls laisse ouverte une question, celle de savoir ce qu'on veut dire quand on dit « croire sincèrement et avec de bonnes raisons ». Ah, c'est une formule très vague, hein, ça. On peut être sincère, on peut croire qu'on a de bonnes raisons, et néanmoins, ces raisons peuvent ne pas être bonnes. Et alors, il pourrait bien se faire que le lourd appareillage de la théorie de Rawls se révèle pas très utile. Je vais poursuivre ma lecture de Rawls encore un petit peu. Puisqu'il ne peut jamais être à l'avantage des hommes, d'un point de vue général, qu'on renonce au droit à la protection de soi-même, La seule question est alors de savoir si ceux qui sont tolérants ont le droit d'imposer des restrictions à ceux qui ne le sont pas quand ils ne représentent aucun danger immédiat pour les libertés égales des autres. Voilà. Est-ce que nous avons le droit de limiter les droits de gens qui prônent l'intolérance quand ils sont trois dans une arrière-salle et qui ne présentent aucun danger immédiat pour les autres? La réponse de Rawls est claire, hein, il dit « Supposons que d'une manière ou d'une autre apparaisse une secte intolérante dans une société bien ordonnée. Reconnaissant les deux principes de justice, comment les citoyens de cette société doivent-ils agir à son égard? Ils ne devraient certainement pas l'interdire simplement parce que les membres de la secte intolérante ne pourraient pas s'en plaindre. Hein? Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre qu'on doit les interdire. Ce n'est pas une raison suffisante. Au contraire, puisqu'une juste constitution existe, tous les citoyens ont un devoir naturel de justice de la soutenir. Nous ne sommes pas dégagés de ce devoir chaque fois que les autres sont disposés à agir injustement. Donc il ne faut pas être injuste avec les injustes. Quand nous sommes Alors quand est-ce que nous sommes dégagés de ce devoir? Seulement quand la Constitution est menacée, dit Rawls. Et dans les autres cas, dit-il, il n'y a pas de raison de refuser la liberté aux intolérants. Hein, vous voyez, donc, la bascule est intéressante, puisque d'un côté il dit les intolérants ne peuvent pas se plaindre de l'intolérance, puis il dit d'un autre côté, sauf quand il y a une menace immédiate contre l'ordre constitutionnel, les membres d'une société bien ordonnée n'ont pas à restreindre la liberté de ces sectes intolérantes. Alors l'appréciation qui doit être portée repose sur un principe fondamental chez Rawls, c'est celui de la stabilité d'une société bien ordonnée régie par les principes de justice. L'idée de Rawls, c'est que tant que la menace des intolérants n'est pas directe, eh bien on doit faire confiance à l'éducation à la tolérance qui nécessairement se propage dans une société tolérante. Voici ce que dit Rawls. Il dit « Les libertés dont jouissent les intolérants pourraient les persuader de croire à la valeur de la liberté. » D'après le principe psychologique qui veut que ceux dont les libertés sont protégées par une juste constitution et qui en tirent des avantages lui deviendront fidèles, toutes choses égales par ailleurs, au bout d'un certain temps. Donc Rawls fait confiance dans les vertus éducatrices de lois justes. Au fond, des gens habitués à prôner l'intolérance, ils sont dans un milieu où ils voient que les droits sont protégés et que même leur droit à dire des bêtises est garanti, eh bien finiront par s'attacher, nous dit Rawls, à ces lois qui garantissent la liberté. Et donc, ainsi, même si une secte intolérante apparaissait, à condition qu'elle ne soit pas initialement assez puissante pour pouvoir imposer aussitôt sa volonté, hein, donc il y a quand même une condition là, ou qu'elle ne se développe pas si rapidement que le principe psychologique n'ait pas le temps d'agir, elle aurait tendance à perdre son intolérance et à reconnaître la liberté de conscience. Mais, concept-il, ceci n'est pas garanti. Et donc il y a bien un dilemme, comme il le reconnaît, et la nécessité de limiter la liberté des intolérants pour préserver la liberté dans le cadre d'une juste constitution, ben, dit-il, dépend des circonstances. Cependant, dit-il, la force et la stabilité des institutions bien ordonnées fait que les membres d'une société bien ordonnée sont assez confiants pour ne limiter la liberté des intolérants que dans les cas particuliers où cela est nécessaire pour préserver la liberté égale pour tous. Je vais citer la conclusion de Rawls. La conclusion est que, tandis qu'une secte intolérante elle-même n'a pas le droit de se plaindre de l'intolérance, sa liberté devrait être limitée seulement quand ceux qui sont tolérants croient sincèrement, et avec de bonnes raisons, que leur propre sécurité ou celle des institutions de la liberté sont en danger. Les tolérants ne devraient imposer de restrictions aux intolérants que dans ce cas. Le principe directeur est d'établir une constitution juste avec des libertés, des droits civiques égaux. Le juste devrait être guidé par les principes de la justice et non pas par le fait que l'injuste ne peut se plaindre. C'est un bon argument, hein. Vous pouvez le transposer. Au fond, le criminel, le meurtrier qui est tué ne peut pas se plaindre. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on a le droit de le mettre à mort. Alors, il me semble, et c'est les limites que j'essaie d'examiner maintenant, il me semble que la position de Rawls est à la fois intéressante et un peu boiteuse. En effet, si on s'en tient strictement à la question de la tolérance religieuse, il apparaît d'abord que la philosophie de Rawls contient, d'une certaine manière, en elle-même, le principe de laïcité. Le premier principe, qui est le principe d'égale liberté pour tous, inclut la liberté de conscience. Cette dernière, nous dit Rawls, ne peut subir aucune limitation, alors que Rawls admet que d'autres libertés pourraient être limitées. Exemple de limitation de la liberté, que nous admettons tous comme naturelle. Mais la démocratie exige que nous participions tous à l'exercice du pouvoir politique. La démocratie représentative est de ce point de vue une limitation de la liberté que nous acceptons parce que nous pensons que le principe d'égale liberté pour tous, c'est-à-dire d'égale participation de tous, par exemple au vote de la loi, est inapplicable. Donc quand il est inapplicable, on passe à l'application du principe de différence, et donc là, on admet que certains aient le droit de voter la loi, à condition que tous puissent se candidater pour avoir le droit de voter à la loi, à condition qu'il y ait égalité des chances donc au départ, donc tous aient le même temps de parole, par exemple dans les campagnes présidentielles ou législatives, je fais allusion à rien de particulier d'actuel, mais à ce moment-là, si ces conditions-là sont respectées, on peut admettre qu'on transfère une partie de notre droit à voter la loi, parce que la démocratie, c'est d'abord ça, c'est le droit de tous les citoyens à voter la loi. Hein? Sinon, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas appeler ça démocratie, dans ce cas, il faudrait appeler ça aristocratie. Hein? La démocratie, c'est le fait que le démos décide. Alors nous ne vivons pas dans un régime démocratique, nous vivons dans un régime qui a un côté démocratique, un côté aristocratique et même un côté monarchique. Donc, on admet des restrictions des libertés. Et Rawls admet ces restrictions des libertés. Mais dit, il y a une liberté qui est absolument inviolable, c'est la liberté de conscience. Bon. Ça veut donc dire que l'État ne peut donner aucun privilège à quelque conviction que ce soit, qu'elle soit religieuse ou non religieuse. Et quand il passe à la justification des principes de justice, Rawls montre que sont justes les principes qu'on approuverait en étant placés sous le voile de l'ignorance, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans la situation particulière où on ignore et ses avantages et ses handicaps propres. Quelqu'un placé sous ce voile fictif d'ignorance ignorerait s'il est lui-même chrétien, mahométan ou athée. Il chercherait donc un système juridique qui lui garantirait la moins mauvaise situation, faute de connaître à l'avance la meilleure pour lui. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, un catholique, sachant qu'il est catholique, préférerait sans doute une étroite liaison entre l'Église et l'État, mais quelqu'un placé sous le voile d'ignorance n'aimerait sans doute pas se réveiller catholique dans une république islamique ou dans un État persécutant toutes les religions. Son choix rationnel devrait donc se porter sur un État laïque, neutre quant aux croyances et garantissant et la liberté de culte et le droit d'être athée. Non. Alors, là, je tire un peu Rawls, hein, parce que le mot laïcité est intraduisible en anglais, donc il est parfaitement ignoré des philosophes anglo-saxons qui parlent plutôt de secularity, secularism, hein, la sécularisation. Bon, ça va demander, c'est pas la même chose. En tous les cas, Rawls soutient la nécessaire neutralité de l'État. Il dit l'État ne doit rien faire pour favoriser ou promouvoir une doctrine englobante particulière plutôt qu'une autre, ou fournir davantage d'assistance à ceux qui sont partisans. Doctrine englobante, par exemple, c'est une doctrine religieuse ou une doctrine philosophique. De là à dire que l'État ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte, il n'y a qu'un tout petit pas. Hein? Et donc, si Rawls été invité à venir parler en France dans un débat sur la laïcité, je ne vois pas comment il pourrait contester le fait que la loi de 1905 est fondamentalement une loi juste. Juste du point de vue de la liberté et de conscience pour tous. Voilà. D'ailleurs, on peut trouver une confirmation pratique de tout ça, parce que ce n'est pas simplement des raisonnements abstraits. Généralement, ce sont les minorités, donc ceux qui ont le moins de chances de pouvoir imposer leur point de vue aux autorités politiques, qui sont les plus ardents défenseurs de la laïcité. On sait par exemple qu'en France, ce ne sont pas les athées qui ont fait voter la loi de 1905. D'abord, ce sont les protestants et les juifs. Bah normal, religion minoritaire, ils sont pour la laïcité. Dans l'état calviniste hollandais, bah ouais, parce que les autres états de l'Union européenne, à l'exception du Portugal, de l'Italie et d'un ou deux autres, méconnaissent la laïcité. En Hollande, il y a une religion officielle. Bon, elle n'est pas très prégnante, c'est le calvinisme du 21e siècle, c'est pas bien méchant, on est bien d'accord. Mais les catholiques hollandais sont plutôt favorables à la laïcité, parce qu'ils sont minoritaires. Et ça, c'est une loi presque générale. Les religions minoritaires préfèrent un État laïque. Bon, eh bien, puisque les religions minoritaires préfèrent un État laïque, ça prouve que la laïcité est la bonne solution. Alors, il y a néanmoins plusieurs points qui posent problème dans tout ça. Le premier de ces problèmes, c'est que les croyances religieuses et les religions sont deux choses différentes. Rawls ne fait pas la différence. Mais normal, lui, il est... Je ne sais pas si lui-même était un puritain ou à quelque secte protestante il a été élevé, mais en tous les cas, il vit dans un monde protestant, hein, dans lequel la religion comme fait social... comme organisation de la société est moins prégnante. En tous les cas, les croyances sont subjectives, elles ne concernent que l'individu. L'individu croit qu'il y a un être suprême qui a créé le monde il y a 5500 ans, en 6 jours plus un jour pour se reposer, parce qu'on n'avait pas encore aboli le code du travail. Bon. Ça, c'est une croyance. Mais ce n'est pas une religion. Je peux croire qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un Dieu en trois, ou qu'il n'y a pas de Dieu du tout, on est toujours dans le domaine de la croyance. Les religions, elles, au contraire, sont des faits sociaux. Et une religion, elle institue un ordre social. Elles sont objectives de ce point de vue-là. Elles partagent le monde, comme l'a très bien analysé Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, entre ce qui est sacré et ce qui est profane. C'est ça qui fait une religion. C'est pas le fait de croire en Dieu qui fait une religion. D'ailleurs, il y a des religions dans lesquelles on ne croit pas en Dieu. Le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Il y a des dizaines de dieux. Ou alors, il y a des dieux, c'est la montagne, le rocher à côté, le guépard dans la forêt, tout ce que vous voulez. La croyance en Dieu ne définit pas une religion. Un déiste, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a un Dieu qui a organisé le monde, mais qui n'appartient pas à une religion. Et la question maintenant se pose différemment, parce que autant la tolérance vis-à-vis des croyances ne pose aucun problème, à dire vrai, autant le problème se pose vis-à-vis des religions, c'est-à-dire de groupes organisés qui visent à structurer l'espace social. Est-ce que la tolérance vis-à-vis des convictions religieuses peut s'accompagner de l'acceptation de la manière dont telle ou telle religion entend organiser l'espace social? Et je crois que si on pose la question, il y a déjà répondu. Hein? Peut-on, au nom d'une certaine conception religieuse, exiger, par exemple, la séparation des hommes et des femmes dans l'espace public, par exemple dans les piscines? Et ceux qui se refusent à séparer les hommes des femmes dans les piscines, doivent-ils être qualifiés d'intolérants, voire injure suprême, d'islamophobe? Je crois que ça, c'est pas possible, hein. Voilà. À l'évidence, des horaires de piscine réservés aux femmes, pourtant, si j'adopte le critère rawlsien, ne constituent pas une menace grave et immédiate contre l'ordre constitutionnel, hein. Mais la question est-ce que nous devons accepter les revendications d'un groupe qui dit les hommes et les femmes ne se baignent pas ensemble? C'est-à-dire, est-ce que nous devons accepter d'un groupe que les horaires des piscines publiques soient gouvernés par une religion et pas par une croyance? Ce n'est pas le texte du Coran. Enfin, non, on s'en fout du texte du Coran, et aussi. C'est pas la question. C'est comment organiser l'espace public. Voilà. Et en réalité, la conception de la tolérance de Rawls, elle est adaptée, il faut bien le dire, et elle ne fonctionne, et Rawls passe ça sous silence, qu'à une société qui admet le multiculturalisme, c'est-à-dire une société, certes bien ordonnée, mais bien communautarisée, dans laquelle chacun est chez soi. Quand vous avez un quartier pakistanais, ben voilà, il peut y avoir des piscines pakistanaises. Il n'y a pas de problème, mais chez nous, il n'y a pas de quartier pakistanais et des piscines pakistanaises. Hein, je fais référence à des villes où il y a une sorte de petit Pakistan, c'est le cas de Londres. Hein, voilà. Deuxième point, et ceci vaut d'abord pour les religions concurrentes. Ce que ce ne sont ni le bouddhisme, qui ne me semble pas une religion concurrente, enfin, je n'ai pas eu ce sentiment, mais je ne connais pas bien, donc peut-être si quelqu'un me corrige sur le bouddhisme, ni le judaïsme. Alors le judaïsme a sûrement été une religion prosélyte, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais en gros, depuis les débuts de l'ère chrétienne, le judaïsme s'est replié sur lui-même et a renoncé à faire des adeptes. Mais il y a eu un moment où il en a fait, hein. Faut jamais oublier ça quand même. Bon, tous les cas, je vais laisser de côté donc les religions non conquérantes, je m'intéresse aux religions conquérantes. Un croyant sincère de l'une de ces religions conquérantes, c'est le cas du catholicisme, hein, quand même, doit estimer que son devoir suprême est de convertir les mécréants. Ben sinon, il n'est ni catholique ni musulman. S'il est sincère avec lui-même, et il doit être prêt au sacrifice pour accomplir ce devoir. Et il ne peut pas non plus accepter ce principe qui veut que la loi de la République est la loi suprême. Sinon, vous lui demandez de violer sa propre conscience. Pour lui, la loi suprême, c'est la loi de Dieu, et si la loi de Dieu entre en conflit avec la loi de la République, eh bien, il s'oppose aux lois de la République. Alors, le christianisme est un peu ambigu sur cette question parce que vous avez une position et son contraire. D'un côté, c'est Augustin. Augustin nous dit, c'est pas à peine de se révolter contre les mauvais princes, donc contre les États qui ne suivent pas la loi de Dieu. Hein. Pourquoi ? Parce que les mauvais princes ont été choisis par Dieu pour vous punir de vos péchés. Bon, pas de révolte. Obéissance au pouvoir, quel qu'il soit. Puis d'un autre côté, quand vous avez l'épée, n'hésitez pas à mener la guerre sainte. Donc il mène les deux. Hein. Il y a les deux très ambigus de ce point de vue. Mais par exemple, les chrétiens fondamentalistes, en particulier aux États-Unis d'Amérique, croient que leur devoir suprême est d'empêcher par tous les moyens ceux qui pratiquent l'IVG. Hein. Est-ce qu'il est possible de tolérer ce genre de fondamentalisme? Un athée pense assez spontanément que la religion est une affaire privée, mais un croyant cherche naturellement à faire une affaire publique. De ce point de vue, il y a deux points de vue dans lesquels je vois mal comment on pourra trouver un consensus par recoupement, puisque l'un dit exactement le contraire de l'autre. Comment un député catholique, par exemple, qui croit que la vie humaine commence quand le spermatozoïde a pénétré l'ovule, pourrait-il voter une loi qui autorise l'IVG? Elle irait contre sa conscience. Elle irait autant contre sa conscience, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, hein, autant contre sa conscience que si on vous demandait de voter l'autorisation du meurtre sous condition. Ouais, c'est de la même nature, pour lui. Vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est pas ça, mais pour lui, si. Hein? Voilà. Voilà, la laïcité convient bien à une religion de l'intériorité et de la prédestination qu'est le protestantisme, en vérité. Hein? Mais l'islam et le catholicisme se sentent, à juste titre, de leur point de vue, brimés par un État laïque. Et tout naturellement, ils cherchent à desserrer cet étau, en tous les cas ce qu'ils ressentent comme un étau. Aujourd'hui, on peut penser que la grande majorité des catholiques acceptent volontiers les principes laïques. Bon, mais d'où ça vient ça? Pas des principes du catholicisme. Hein, ça vient du fait que ce pays est profondément déchristianisé. la grande majorité des Français ne croient pas en Dieu. La grande majorité des catholiques ne croient pas à l'immortalité de l'âme et une bonne partie d'entre eux ne croient pas en Dieu. Ça ne les empêche pas d'être catholiques, hein, c'est encore une autre affaire. Les statistiques et les enquêtes, on fait la même enquête depuis 40 ans, je crois, sur les croyances, et là, c'est absolument imparable. Et de toute façon, c'est très vieux dans notre pays. La déchristianisation a commencé au XVIIIe siècle. Les moins vite déchristianisés, c'est les régions protestantes. Mais les bastions de la fronde, par exemple, qui ont été aussi les bastions de la contre-réforme catholique, ont été déchristianisés les premiers. Moi qui suis bourguignon, eh bien dans le département de l'Yonne, au XVIIIe siècle, il n'y avait plus de curés. On cherchait des curés.
La maîtresse.
Et d'ailleurs, ça n'a pas changé, puisque la dernière fois que j'ai mis les pieds dans une église pendant mon pays, le curé était polonais. C'était pas un plombier, c'était un curé polonais. Bon. Voilà. Donc c'est très vieux, hein. Il y a aussi des choses qui sont très connues. Les horribles secrets qui permettent de faire l'amour sans avoir des enfants étaient très largement partagés en France, d'où la faible natalité française dès le XVIIIe siècle. Ce qui fait que le pays le plus peuplé d'Europe sous Louis XIV devient un des moins peuplés à la fin du XIXe. Hein? Parce qu'on pratiquait les petits secrets. Bon, il y a de top livres d'histoire sur ce sujet. Donc vous voyez, il y a ça qui est derrière. Hein? Pour des raisons compliquées, le centre qui va fournir les bastions de la Révolution française, les bastions de la République, ce noyau central, bassin parisien, sud-est, etc., de la France est déchristianisé massivement et depuis longtemps. Voilà. Donc pas d'hier matin, hein, pas depuis l'invention de la télé. Donc ça effectivement affaibli la position du catholicisme, hein, et la pratique religieuse dans notre pays est souvent réduite au strict minimum, pour ceux qui pratiquent encore, et pas toujours accompagnée de croyances, comme j'ai dit. Et puis, même pour les catholiques croyants et pratiquants, sans qu'ils s'en aperçoivent en réalité, quand on discute un petit peu, leur catholicisme est une variété de protestantisme. Sur le fond, hein, quand on discute un peu théologie avec eux. Les catholiques, en outre, obéissent assez peu à l'Église, sur des questions essentielles, par exemple sur la question de la morale sexuelle. Les prêches des papes successifs ne font rien sur la pratique de la pilule parmi les femmes catholiques. Ça devrait pourtant, si l'Église existait encore comme force capable de structurer le champ politique. Voilà, donc ça explique que l'Église catholique accepte en France, les catholiques acceptent très bien les principes laïques, enfin, en gros, hein, de temps en temps, ils essaient de grappiller ici et là, mais en gros, le croyant qu'il ait été baptisé en Église catholique ou ailleurs, quand il entretient des rapports avec Dieu, c'est surtout des rapports personnels, sans l'intermédiaire de l'institution médiatrice par excellence qui est l'Église. Alors, plus généralement, l'adoption par tout le monde des principes moraux justes, indépendamment de nos autres choix de vie, comme le préconise Rawls, semble un idéal impossible à atteindre. On le voit à nouveau ces dernières années, par exemple avec la question épineuse de l'euthanasie. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord indépendamment de ses choix religieux là-dessus, hein? La morale laïque des débuts de la Troisième République, celle que les instituteurs devaient enseigner, elle est souvent inspirée d'ailleurs du manuel républicain que le philosophe Renouvier, ancien français, avait composé sur la demande du ministère de l'Instruction publique après la révolution de 1848. Alors ce manuel était une adaptation de la morale kantienne, conçue en outre pour ne pas choquer la majorité catholique. Alors on pourrait penser la remettre au goût du jour, en faire une version modernisée de ce manuel de Renouvier, de l'enseigner aux enfants, mais c'est évidemment une tentative assez insensée. La morale laïque ancienne était le complément indispensable d'une république en train de se constituer, de renforcer ses propres bases, de constituer un compromis entre toutes les factions républicaines, non pas un compromis théorique, non pas un consensus par recoupement, à la manière de Rawls, mais un compromis fondé sur une vision commune globale de ce qui est bien pour le pays. Les principes républicains, la prospérité fondée sur le travail individuel, un capitalisme tempéré par l'intervention de l'État, une certaine place faite aux revendications socialistes du mouvement ouvrier qui venait de naître, et qui d'ailleurs commençait à prendre sa place dans cette société, ça c'était le socle qui a permis à la laïcité de s'imposer. Et ce n'est pas du tout un raisonnement théorique, ce n'est pas du tout une procédure de justice, c'est un mouvement politique. Bref, ce qui est finalement à mettre en cause, peut-être, je crois, c'est la notion même de tolérance. Alors, Kant se méfiait de la tolérance. Dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», il écrit « Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il tient pour un devoir de ne rien prescrire aux hommes en matière de religion. » Ouais, ça c'est la laïcité. Mais de leur laisser en cela pleine liberté, qui décline par conséquent jusqu'à l'attribut hautain de tolérance et lui-même éclairé. Autrement dit, la liberté religieuse ne s'appelle pas tolérance, c'est un mot hautain, dit Kant. Un mot hautain. Et en effet, la tolérance, c'est un attribut hautain. La tolérance, c'est celle que pratiquent les États profondément religieux, mais qui tolèrent que les autres puissent aussi avoir leur religion. Et mènent leur propre vie. Ça n'est pas un État fondé sur l'égale liberté pour tous et l'égal respect. La tolérance est soit une vertu relative, alors j'ai sur mon site, vous trouverez un petit article qui s'appelle « Les limites de la tolérance » qui pose cette question, est-ce que de quel genre de vertu est la tolérance ? Soit une vertu relative, soit un principe pour un État religieux libéral. Locke, par exemple, pensait que la tolérance était une bonne chose, bon, à condition de ne pas l'étendre aux athées, puisque vous ne pouvez quand même pas faire confiance dans la parole de quelqu'un qui ne craint pas l'enfer. Bon, puis il y a également les papistes, dont il fallait se méfier aussi quand même, parce que... Mais c'est toujours une liberté religieuse limitée. Je tolère les autres. La Hollande du XVIIe siècle est un État tolérant, à condition de croire en Dieu. L'athéisme n'est jamais toléré par les tolérants. Un petit exemple tout de même. Les États-Unis sont un pays tolérant, mais leur président jure sur la Bible. Et on ouvre la session du Congrès en disant une prière. Donc, ils sont tolérants, à condition d'être chrétiens. Et la conséquence la plus évidente, qui est assez... étrange quand on la regarde, si vous prenez les classes cultivées américaines, vous prenez par exemple les professeurs d'université. Les enquêtes nous disent qu'il y a entre 5 et 15% de croyants. Tous les autres sont athées. Donc les sphères intellectuelles sont plus massivement athées que chez nous. Si vous regardez le personnel politique, il n'y a pas, à ma connaissance, un seul sénateur ni un seul gouverneur qui se dise athée. Tous doivent manifester leur christianisme. Tous. Je crois que ça, c'est un bon exemple de cette... Alors, c'est peut-être ce que Tocqueville appelait la tyrannie douce de la majorité et le conformisme qu'elle engendre. Sûrement, ça joue beaucoup aux États-Unis. Et Tocqueville est un auteur perspicace sur bien des questions. En tous les cas, je crois que c'est assez clair. Et par rapport à ça, il est exact que la laïcité française n'est pas très ouverte. Bon. Et c'est pourquoi beaucoup de belles âmes voudraient une laïcité ouverte qui se transformait en tolérance religieuse. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de défendre la laïcité, mais on a trouvé un nouveau mot bisounours, un peu gnangnan, le vivre ensemble. J'en ai marre du vivre ensemble. On n'a pas envie de vivre ensemble avec tous les gens qui vous parlent du vivre ensemble, franchement. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la laïcité n'apparaît pas ouverte ? Parce que la laïcité ne tolère pas les religions. Pourquoi elle ne les tolère pas ? Tout simplement parce qu'elle ne les reconnaît pas. Donc elle n'a pas ni à les tolérer, ni à les persécuter, elle ne les reconnaît pas. La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Je ne vous reconnais pas. Vous existez, voilà, vous me faites une association cultuelle, genre association de loi 1901, comme il y a les pêcheurs à la ligne de la vallée de Liton, et puis débrouillez-vous. Vos affaires ne me regardent plus. C'est ça le principe de la laïcité. Ah, évidemment, ce n'est pas très ouvert. Pourquoi ? Parce que la République ne reconnaît que des personnes et elle ne distingue entre les citoyens que ceux qui ont la citoyenneté française et ceux qui ne l'ont pas. Donc les Français et les étrangers. Point final. C'est pourquoi, par exemple, les musulmans de France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne devrait pas entendre cette expression, surtout de la part d'hommes politiques qui sont censés défendre la constitution républicaine de ce pays. Alors ce refoulement de la religion dans l'espace privé n'est acceptable que pour des religions faibles, des religions qui ont mis beaucoup d'eau dans leur vin de messe. Hein? Et tout ça a des conséquences, hein, je ne vais pas m'étendre trop sur les conséquences, mais par exemple, notre instruction publique, elle est fondée sur la transmission de savoirs objectifs. Donc un professeur est fondé à enseigner que la théorie de l'évolution de Darwin est vraie. Voilà, je ne discute pas, c'est vrai. Moi je le dis toujours dans mes cours, Darwin a raison, sa théorie est vraie, et ceux qui pensent que Darwin ça se discute, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate et portée par quatre éléphants. Et donc il n'y a rien de plus à discuter. Voilà, c'est vrai. Bon, mais voilà, quand vous enseignez ça, quand vous enseignez que c'est aussi vrai que le mouvement de la Terre ou la mécanique quantique, est-ce qu'il faudrait, par esprit de tolérance et pour ne pas violer la conscience des jeunes gens élevés dans la religion musulmane ou chrétienne, dire que, oh oui, après tout, Darwin, ça se discute. J'ai vu une circulaire ministérielle qui nous incitait à discuter. Ben non, il n'y a rien à discuter. On ne va pas discuter du mouvement de la Terre, hein. Quand il est sorti de son procès, Galiléo Galilei, il a tapé du pied par terre, il a dit, poursuis-moi, mais, et pourtant elle tourne. Voilà, puis c'est tout. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Bon, alors tout ça m'amène sur des questions actuelles, parce que nous sommes confrontés de plein fouet à ces questions. Ce n'est pas un débat purement théorique. Alors on nous dit qu'il y aurait un retour du religieux, ça mérite d'être discuté. Hein, je ne suis pas sûr qu'il y ait un retour du religieux, et j'ai eu l'occasion il y a quelque temps d'écouter une conférence de notre collègue Christian Godin, à l'invitation de notre inspecteur, n'est-ce pas, Christian Godin qui a écrit un livre intitulé « Le soupir de la créature accablée », qui fait référence à un fameux passage de Marx sur la religion, et Godin dit qu'il n'y a pas de retour du religieux parce que ce qui se développe aujourd'hui, c'est autre chose que la religion telle qu'elle était analysée par Durkheim. Et j'étais assez convaincu par ses arguments. Bon, en tous les cas, les différences entre le religieux d'aujourd'hui et le religieux d'hier sont à elles seules un sujet de méditation. Nous sommes en tout cas confrontés à un islamisme conquérant, particulièrement violent, qui oblige à reposer les questions qu'on croyait régler. Alors, avant d'entrer dans le vif des questions que je vais poser, je crois qu'il faut d'abord se garder de mettre toutes les religions dans le même sac. Bon, on a envie, hein, quand on est un vieux mécréant comme moi, on regrette l'époque de l'assiette au beurre, tout ça, bon, on est tenté par ça, mais je crois qu'il faut faire des distinctions. Alors, d'un certain point de vue, tous les fondamentalismes se ressemblent, hein, dans leurs obsessions, en particulier dans leurs obsessions sexuelles, hein, qu'il s'agisse du fondamentalisme chrétien, musulman ou juif, leurs attitudes à l'égard des femmes, à l'égard de la sexualité sont du même acabit, et tous, on a envie de leur demander de consulter quand même assez rapidement, si quelque chose est encore possible. Mais dans leur rapport avec la politique, à partir du moment où on est sorti de l'âge théologico-politique, bien là les différences sont plus frappantes, hein. Le protestantisme religieux est une religion sans clergé, c'est une religion de l'intériorité, et c'est une religion qui, au fond, n'a pas beaucoup de mal à s'adapter à la société laïque. Il accompagne même assez franchement le mouvement de sécularisation, si cher aux anglo-saxons, et par exemple, vous avez peut-être remarqué que les pays protestants et les églises protestantes adoptent volontiers toutes les réformes sociétales les plus échevelées. Hein. Bon, ça leur pose pas de problème. Avec le catholicisme, les choses sont un peu plus difficiles. L'église, c'est le corps du Christ, elle a ses propres lois. Et là, vous voyez le rôle de l'institution. Un protestant ne va jamais penser qu'il a une loi qui soit différente de la loi de l'État. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de confession chez les protestants? Parce que si vous allez voir le pasteur en disant « Mon père, là, je viens de tuer quelqu'un », immédiatement, lui, il fait son devoir, il vous emmène chez les flics. Ça ne discute pas. Alors que l'Église catholique a sa propre loi, vous allez voir le bon père, vous lui dites, voilà, mon père, j'ai violé un petit garçon, bon, ben voilà, tu me diras trois pater, deux avés, et puis je te déplace de ta sinécure. Voilà, donc, vous voyez, c'est des choses quand même très différentes. Et ça, c'est une question, c'est le rôle de l'institution. Et d'ailleurs, depuis au moins 1000 ans, l'Église catholique est en conflit avec tous les pouvoirs temporels en Europe. C'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de l'Europe occidentale. L'Empire romain byzantin et l'Église orthodoxe avaient complètement fusionné. L'Église orthodoxe, elle est avec le pouvoir, et le pouvoir avec l'Église orthodoxe. Ça a toujours été le cas. C'est encore le cas, regardez ce qui se passe en Russie. Poutine et l'Église orthodoxe marchent la main dans la main, comme Staline et l'Église orthodoxe ont marché la main dans la Grande Guerre patriotique. Hein. Et ça, c'est lié à ce qu'a été l'orthodoxie. L'Église catholique en Europe occidentale a toujours été en conflit avec les pouvoirs. Vous avez des batailles incessantes entre le Saint-Empereur romain germanique et le pape. Hein, l'histoire de Canossa, tout ça. L'Italie du Nord, ils n'ont cessé de se battre. Vous aviez dans chaque ville le parti du pape, les Guelfes, le parti de l'empereur, les Gibelins. Bataille avec la France. Les rois de France, de temps en temps, décident, le pape leur plaît pas, ils mettent un pape à eux, ils l'installent à Avignon. Voilà. Il y a vraiment cette bataille permanente. Vous avez la même bataille avec l'Angleterre. Henri VIII, quand il en a marre d'être soumis au diktat du pape pour savoir s'il doit se divorcer ou pas, il dit, bon, ben, c'est fini, maintenant, c'est moi le chef de l'Église d'Angleterre, qu'on n'en parle plus. Ça s'est passé comme ça. Il faut bien comprendre ce conflit et de ce conflit. Évidemment, quand en haut, on joue du violon, ben, en bas, on se met à danser. Et c'est ça qui explique aussi cette atmosphère de critique et de liberté dont sont nées les Lumières. Vous pouvez croire que tout ça est né par hasard. C'est né parce qu'il y a toujours eu un conflit. Et comme dit mon maître Machiavel, le conflit est toujours favorable à la liberté. Le catholicisme a toujours été en bataille avec l'État, hein, ça c'est clair. Bon. Le judaïsme, lui, n'a pas du tout ce genre de problème, puisque c'est depuis très longtemps maintenant une religion communautaire, repliée sur elle-même, qui, de plus, fait très très peu de convertis, puisque le judaïsme se transmet par la mère. Voilà, si votre mère est juive, vous êtes juif. D'ailleurs, les fondamentalistes, les pires, la Ligue de défense juive, disent qu'il faut arrêter les mariages entre juifs et non-juifs, parce que la race juive va se perdre. Puisque ça ne passe que par les femmes. Voilà. Donc un juif qui épouse une goye, eh bien, il fait perdre du sang juif. C'est la Ligue de défense juive qui défend ça. Comme quoi, il y a des fondamentalistes un peu partout. Hein. Voilà. Dans tous les cas, c'est une religion qui a pris l'habitude d'accepter toutes les conditions politiques pourvu qu'elle puisse pratiquer ses rituels en paix. Hein. Voilà. Donc, c'est une religion aussi qui s'est très bien adaptée à l'atmosphère laïque. Hein. Les juifs en France ont été très tôt intégrés à la République. Ils ont d'abord été émancipés ils ont joué un rôle politique très très tôt, hein, un rôle important. La Troisième République, elle a aussi bon nombre de juifs dans ses pères fondateurs. Hein. Bon. Voilà. En ce qui concerne l'islam, lui, comme le catholicisme, se veut universel et conquérant. Mais alors que le catholicisme a renoncé à la conquête, quand même pas mal, hein, sous les formes actuelles de l'islamisme, l'islam semble affirmer sa vigueur et aujourd'hui met directement en cause l'ordre politique, démocratique, laïque ou tolérant des sociétés dont, par ailleurs, les racines sont plus ou moins chrétiennes. Je dis un petit mot là-dessus. Quand on a voulu nous faire voter un traité constitutionnel dans lequel étaient écrites les racines chrétiennes de l'Europe, j'étais évidemment absolument contre. Parce que je suis absolument opposé à ce que l'évocation des racines chrétiennes de l'Europe figure dans un texte de droit. Mais du point de vue historique, je veux dire, on ne peut pas nier l'évidence. Il suffit de se promener, voir les églises partout, et voir le rôle de qu'a joué le christianisme dans nos pays. Bon. Et là, vous avez quelque chose qui est très ancien, et puis qui renaît sous des formes nouvelles. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, de l'islam des origines, il y a quelque chose qui distingue fondamentalement l'islam du christianisme. Le mot islam veut dire soumission. Soumission. Et la liberté de l'homme est pour l'islam une pure et simple hérésie. Penser que les hommes sont libres, c'est être fou. C'est dit et répété, hein. On l'a vu, c'est en grand dans certaines mosquées en Turquie. Et là, dans toutes les langues, pour que les visiteurs puissent bien s'en pénétrer, parce que nous ne lisions pas le turc, ni l'arabe. Voilà. Hein. Alors que le libre arbitre est essentiel dans la doctrine chrétienne. Encore une fois, pour revenir au père de l'Église, c'est-à-dire Augustin, et à son traité du libre arbitre. Le péché et la rédemption ne sont concevables que parce que l'homme est libre. S'il ne disposait pas de libre arbitre, la notion de péché n'aurait pas de sens. Et donc, au cœur du christianisme est affirmée la liberté de l'homme. C'est pour ça que les racines chrétiennes, c'est pas tout à fait idiot quand même. Hein, voilà. Alors, on pourra me dire que tout ça, c'est que des fadaises théologiques. Le problème, c'est que ces fadaises théologiques, elles modèlent les mentalités. J'en donnerai trois exemples tout de même. Le chrétien est baptisé. Donc, il n'est pas chrétien de naissance. Édain. Alors, il est baptisé sans son consentement, évidemment. Bon, faut se dépêcher, parce que s'il meurt tout de suite, il va finir dans les limbes, puisqu'il n'aura pas été lavé du péché originel. Bon, voilà, ça c'est un peu compliqué, mais voilà. Mais, il doit réaffirmer, quand il a passé l'âge de raison, son engagement. Ça s'appelle la communion. Et là, il doit dire « Je crois en Dieu ». Car c'est lui qui parle. Et donc, il a le choix, théoriquement. Pratiquement, il ne l'avait pas, vous allez me dire. Hein. Ce n'est pas la question. C'est que c'est posé comme une affirmation qui vient de lui, de sa conscience. Voilà. Il n'y a rien de tel dans l'islam. Hein. Rien de tel. Je vais donner un deuxième exemple. Oui, dans l'islam, l'enfant est musulman, ça ne se discute pas. Et s'il abandonne la religion musulmane, il devient un apostat, et les apostats méritent la mort. Hein? Et j'attends de voir un religieux modéré me dire que les apostats ne méritent pas la mort. Je les attends toujours, hein. Monsieur Tariq Ramadan, là, le héros de l'intelligentsia islamophile, il se garde bien de dire ça. Il dit qu'il faut peut-être suspendre la peine de mort, compte tenu des circonstances, tout ça. Mais il dit pas que l'apostasie est un droit. Bon. Voilà. Deuxième exemple. Après bien des péripéties et des querelles, alors c'est très long cette histoire, hein, l'Église a fini par admettre le mariage comme sacrement. L'histoire est compliquée parce que le péché de la chair, c'est pas bon. Donc il faudrait que les hommes s'abstiennent d'avoir des rapports sexuels. Le problème, c'est que si tout le monde avait écouté cet enseignement, on serait plus là pour en discuter. Donc il faut composer avec le réel et invention géniale de l'Église, c'est-à-dire ben, le mariage, on va sanctifier le rapport charnel en faisant du mariage un sacrement. Ça, c'est un coup de génie. Les théologiens de l'Église catholique, moi, mais pas toujours parler des ressources. Bon. Mais à partir du moment où c'est un sacrement, le mariage suppose le consentement des personnes. Il faut que la femme ait une âme. Bon, ça, ils ont mis un peu de temps parfois, mais en gros, ça a été assez vite réglé. Qu'elle puisse être une chrétienne au même titre que les autres et qu'elle dispose du même libre arbitre que son mari. Donc, si vous présentez deux jeunes gens devant le prêtre, il doit leur demander s'ils sont d'accord. Et si la jeune fille dit non, elle a le droit de dire non. Et l'Église est tenue de la protéger. Alors évidemment, vous allez me dire, elle va finir bonne sœur. Mais dans bien des cas, c'est une situation bien plus enviable que les mariages qu'on leur promettait. Hein? Voilà. Et ça prouve bien quelque chose tout de même, qu'au cœur de cette affaire, il y a le libre consentement de l'individu. C'est une religion individualiste, hein. C'est Hegel qui dit que le christianisme a apporté au monde l'idée que l'individu, comme tel, a une valeur infinie. Et je crois qu'Hegel a raison sur ce plan. Voilà. Inversement, la règle du monde musulman, c'est le mariage arrangé et la soumission absolue des filles. Alors, bien sûr, les chrétiens continuent de faire des mariages arrangés, qui sont d'ailleurs dénoncés vigoureusement par notre cher Molière. Hein, c'est un de ses thèmes favoris. Le triomphe de l'amour contre le mariage arrangé. Et il ne faut quand même pas oublier que Molière, c'était l'auteur de La Cour. C'est pas une espèce de marginal, hein. C'est l'auteur officiel. Et le centre de ses pièces, c'est quand même ça. Bon. Mais bon, il y a des mariages arrangés, on sait bien alors les règles de mariage, on sait bien comment des familles riches on organise des rallyes pour que les jeunes gens se marient bien entre eux et pour que le patrimoine ne se disperse pas, tout ça. Mais de fait, c'est pas ce qui se passe qui est important, c'est la loi. Qu'est-ce qui est indiqué comme la prescription, hein? Et ça, ça modifie les mentalités. Et ne pas vouloir penser ces différences, c'est s'aveugler. Je vous donne un dernier exemple. Un martyr chrétien, c'est quelqu'un qui consent à mourir pour ses idées, mais il consent à mourir, il se laisse tuer. Le martyr djihadiste, c'est quelqu'un qui tue, qui est prêt à mourir, mais en tuant. Ça fait aussi une sacrée différence, hein. Voilà. Alors, tout ça, c'est des idées, mais ça forge les caractères, et les idées religieuses sont aussi des forces sociales. Et je crois qu'il faut cesser de mettre tout ça dans le même paquet. Je voudrais pointer encore une différence qui n'est pas secondaire. Comme les juifs, les sectateurs de l'islam sont des fanatiques de la loi formelle, interdits alimentaires, prescriptions concernant le pur et l'impur, rituels simples mais pesants. Et du même coup, le sectateur de l'islam peut difficilement exister, vivre sa foi selon sa loi, dans un pays non musulman. Par exemple, il lui faut déjà des bouchers spéciaux pour manger de la viande halal. Hein ? Comme un juif, il faut manger du kasher. Hein, il y a cette même obsession du pur et de l'impur derrière, qui est assez mortifère, il faut bien le dire. Bon, puis il faut des salles de prière sur le lieu de travail, et ainsi de suite. Et puis on ne se mélange pas par le mariage, on n'échange pas les filles, la règle c'est l'endogamie. Voilà. Alors, les difficultés de l'intégration, comme on dit, c'est un mot que j'aime pas trop, hein, ne tiennent donc pas ou pas seulement au racisme des Français, ça existe, au reste du colonialisme, et bien sûr, mais ils tiennent au fait qu'il y a un choc frontal entre la laïcité républicaine, qui d'ailleurs a été imposée de force à l'Église, hein, parce que les catholiques pourraient dire on nous en a fait nettement plus baver qu'on en fait baver aux musulmans aujourd'hui, hein. Et d'autre part, un communautarisme musulman qui ne vit jamais aussi mal, effectivement, que dans une société comme la nôtre. Alors, comment ils peuvent vivre ? Ben, il suffit de s'asseoir tranquillement sur l'islam, de se bricoler un petit islam au rabais, un petit islam qui ne rechigne ni devant une coupe de champagne, ni devant notre pratique de se faire la bise entre hommes et femmes au travail. Ouais, tout ça, ça paraît des choses anecdotiques, mais c'est pas anecdotique du tout. C'est le fondement de ce qui fait une société. Hein. Voilà, donc, il y en a beaucoup. Hein. L'immense majorité de nos compatriotes qui se disent musulmans pratiquent cet islam-là. Mais cet islam-là, c'est pas vraiment une religion. Hein. C'est une variété de déisme, une sorte de spiritualité, avec un mélange de traditions culturelles, je sais pas, moi, comme les bourguignons... une façon de manger, les Normands une autre, dans le midi on met plutôt de l'huile dans la cuisine, ici c'est plutôt du beurre, tout ça, voilà, c'est une tradition culturelle. Mais c'est plus vraiment une religion. Voilà. Alors, d'ailleurs, le seul dernier interdit qui reste avec les musulmans de ce petit islam personnel, c'est curieusement, c'est interdit du porc. Ça, c'est sûr. Voilà, vous pouvez faire boire du vin, ça, il n'y a pas trop de problème. Voilà, mais alors, on se fait la bise, tout ça, c'est... Alors, mais le porc, alors voilà, donc vous êtes obligé de faire attention, pas servir de porc. Et si vous servez du rôti de veau, vous ne mettez pas de la pancetta autour. C'est dommage, parce que du rôti de veau dans la pancetta, c'est absolument délicieux. Voilà. Ça, c'est un problème qui m'intrigue toujours, parce que Comment on peut s'affranchir autant de la loi formelle pour maintenir simplement une spiritualité, une certaine règle de vie, et puis alors rester fixé sur ce problème, parce que franchement, Dieu, il n'en a rien à faire de ce qu'il y a dans nos assiettes. Je pense que s'il existe, il y a d'autres choses à faire que de s'occuper de nos menus. Voilà. En tous les cas, vis-à-vis de cet islam bricolé, qui est celui qui a, encore une fois, c'est l'immense majorité de nos concitoyens qui se disent musulmans, ont cet islam-là. C'est celui qui s'est fait avec l'immigration à partir des années 60. Hein. Là, il n'y a pas de problème de tolérance. Le problème, c'est pas de savoir si on les tolère ou pas. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors, le problème de fond, lui, aujourd'hui, c'est la montée de l'islamisme comme idéologie politico-religieuse. Alors, on pourrait faire l'histoire de tout ça. Hein. Je bavarde. Et montrer d'ailleurs que cette histoire-là n'était pas inévitable. Hein. On pourrait montrer le rôle que les puissances occidentales ont joué là-dedans, de Laurence d'Arabie au dépeçage de l'Empire ottoman, des accords Roosevelt-Ibn Saoud sur le Quincy en 1945, jusqu'à la création d'Al-Qaïda et des talibans. Hein. L'islamisme dans toutes ses variantes, des frères musulmans au salafisme, au wahhabisme, sans parler des variantes chiites importées de la contre-révolution de Roménie, c'est une idéologie religieuse meurtrière qui exploite le ressentiment contre la modernité en général et s'appuie massivement sur les frustrations sexuelles. Et c'est cet islamisme-là, encore une fois, hein, moi je sais, je fais peu de différence. Cet islamisme-là qui domine l'union des organisations islamiques en France, l'UIF, qui est le grand interlocuteur en ce moment même hein, du ministre de l'Intérieur. Et c'est cet islamisme-là que propage, sous ses dehors doucereux, le nouveau héros de Edoui Planel, j'ai nommé Tariq Ramadan. Eh bien là, nous sommes, il faut le dire, devant une menace sérieuse et immédiate, pour reprendre les termes de John Rawls. Et nous n'avons aucune raison de tolérer ces gens-là. À leur manière, ils sont aussi dangereux que l'étaient les nazis. Et comme les nazis, ils recrutent dans le lumpen prolétariat et sont financés par le grand capitalisme pétrolier. Alors, je ne peux pas développer tout ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet. Je vais donner simplement quelques grandes lignes que nous devrions tenir. Premièrement, cesser de courir après un islamisme modéré. Hein. Monsieur Cazeneuve demande aux frères musulmans, à l'UIF, de participer, même de prendre en charge la déradicalisation djihadiste. C'est un peu comme si on proposait de faire une descente de cave à un alcoolique pour le guérir. Deuxièmement, ne pas céder un pouce de terrain sur la question des femmes, et notamment sur la question du voile. Pas de fantômes dans nos rues. Troisièmement, cesser de parler des musulmans de France, ça n'existe pas, il y a des concitoyens qui, par ailleurs, il n'y a pas de musulmans de France, c'est pas une entité, il y a des Français par ailleurs musulmans, c'est pas pareil, hein, non. Et restaurer un enseignement à l'école, un enseignement scientifique rigoureux, et un enseignement de la culture française et européenne en priorité. Voilà, on a le droit de se défendre tout de même. Cesser de sous-traiter le maintien de l'ordre aux salafistes, comme ces nombreux maires qui soutiennent financièrement des mosquées salafistes, au motif que les salafistes détournent les jeunes de la drogue. Évidemment, ils détournent de la drogue, mais 6 mois après, ils auront les kalachnikovs. Alors, je ne sais pas. Hein. Personnellement, moi, je ne serais pas gêné que les prédicateurs salafistes qui n'ont pas la carte d'identité française soient reconduits à la frontière en partance pour les pays de leurs rêves, genre l'Arabie Saoudite. Il faut cesser également, dans les discours et dans nos enseignements, de parler des Arabes et du monde arabe. Non, il n'y a pas des Arabes, il y a des Égyptiens qui sont Égyptiens, des Syriens qui sont Syriens, des Palestiniens qui sont Palestiniens, ils s'appelaient les Levantins avant. Hein. Voilà, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, il n'y a pas des Arabes. Les Arabes, ils habitent en Arabie. Et d'ailleurs, tous ceux que je viens de citer en premier sont des peuples qui ont été jadis conquis, soumis par les Arabes venant d'Arabie, avant que tout ce beau monde se fasse conquérir et soumettre par les Ottomans. Hein? Voilà. Donc il faut essayer de remettre un peu de l'histoire là-dedans, et arrêter de simplement se battre la coulpe parce qu'on a été les colonisateurs. Oui, on a été les colonisateurs, mais on n'a pas été les premiers. Hein? Et donc, moi, j'aime bien afficher le bazar un peu en classe, comme ça, en faisant remarquer que les Arabes ont été battus par les Ottomans, et que c'est les Turcs, quoi, qui ont dominé les Arabes. Bon, alors après, donc, comme ça, ils commencent à se battre entre eux, c'est très bien, ça me fiche la paix. Bon, mais non, mais... C'est-à-dire, et là, il faut connaître l'histoire, mais c'est cette histoire-là qu'il faut raconter. Bon. Voilà. Puis faire remarquer à propos du colonialisme qu'on a tous été colonialistes, les Arabes, les Ottomans et nous, mais que la critique du colonialisme, elle vient d'ici. Elle vient d'ici. Nous avons fait cette critique. Pourquoi ? Parce que nous sommes animés dans notre civilisation depuis les premiers philosophes grecs de cet esprit critique. Voilà. C'est au moins quelque chose qu'on doit défendre. Bon. Et puis, enfin, cesser de cirer les babouches des monarques wahhabites. L'indécente légion d'honneur remise au ministre d'intérieur saoudien, tout de même. C'est presque qu'une anecdote à côté du soutien militaire qu'on accorde aux massacreurs des enfants du Yémen. Parce que grâce à nos petits joujoux qu'on leur vend fort cher, les Saoudiens sont en train de bombarder le Yémen et de faire des dizaines de milliers de morts. Hein ? Voilà. Alors nous, on s'en lave les mains. Hein ? Bon. Il faudrait interdire aussi toutes ces fondations qataries qui commencent à proliférer dans les banlieues, et puis annexement boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022. Hein. Mais oui. Comment ?
Le Paris Saint-Germain.
Ouais. Puis boycotter le Paris Saint-Germain, comme il y a une petite affiche qui mettait Daesh et le Paris Saint-Germain ont le même sponsor. Voilà. Bah oui. Non. Voilà. Bref, il faut mener une bataille politique et morale qui viendra au secours, notamment de tous ces intellectuels comme Kamel Daoud, Boualem Sansal, qui mènent dans leur propre pays le combat pour la défense de la liberté, de la laïcité et des lumières. Il y a un dernier point qu'il faudrait développer, c'est celui du rôle des idiots utiles de l'islamisme. Hein. Ces partisans du mariage gay et du « il est interdit d'interdire » qui font de l'islamisme le dernier substitut à un messianisme révolutionnaire disparu. J'ai déjà cité Plenel, il y en a beaucoup d'autres, hein, du PS au NPA. Le NPA d'ailleurs est déchiré entre la tendance laïque et la tendance islamophile. Hein, je veux dire, comment est-ce qu'on peut à la fois soutenir le voilement des femmes et le mariage pour tous ? Alors là, il y a quelque chose, comment ? Au nom de la tolérance, et ça doit être ça, effectivement. Bon, il y a eu, peut-être avez-vous vu ça, il y a eu une pétition d'universitaires français contre Kamel Daoud. Contre Kamel Daoud. C'est un véritable scandale. Hein. Et on ne peut pas s'empêcher de songer en voyant ça, cette constante et consternante adoration des tyrans chez certains de nos intellectuels. Hier, c'était Hitler ou Staline, ça a été Mao, et aujourd'hui, c'est les islamistes. Hein, mais il y a ce goût du tyran qui mériterait de réfléchir. En tout cas, pour moi, il n'est plus temps d'être tolérant à l'égard des intolérants.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des intolérants dans la salle ? Qu'ils prennent la parole.
Exactement. Tant qu'ils ne constituent pas une menace sérieuse et immédiate pour la Constitution, ils peuvent parler. Hein.
Donc, je pense qu'ils prennent des paroles. Ah, il y a tout
un tout petit point au début. Vous avez évoqué la loi de 1905 comme une date, mais je ne me rappelle pas du tout ce que c'est que cette loi de 1905.
C'est la loi qui sépare les églises de l'État, dont l'article 1 dit « La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte ».
Article 2.
L'article 2. L'article 1 reconnaît la liberté de conscience.
Comment réagissent vos étudiants quand vous leur présentez ? Est-ce que vous avez sûrement des étudiants musulmans ?
Oui. Comment réagissent ? Je dis des choses moins vigoureusement qu'ici. Forcément. Je veux dire, il y a une certaine réserve qui est tenue à la fonction, mais je dis la même chose. Je veux dire, sur Darwin, généralement, ça évite les débats. Hein. Quand j'ai commencé par poser la question, clairement, c'est vrai, ça se discute pas. Bon, en gros, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Ça peut arriver. Hein.
Non, mais je veux dire, le genre de discours que vous avez fait ce soir, vous ne le faites pas dans un lycée.
Non, je ne fais pas ce discours-là dans un lycée, mais le fond est le même. Hein. La défense de la laïcité, j'en parle régulièrement.
Et ça plaît sa classe.
De toute façon, on a notre programme à bonne hauteur pour la laïcité, c'est Spinoza.
Vous m'avez fait penser un peu à Voltaire, et c'est pas une méchanceté. Parce que vous avez quand même essentiellement parlé de la tolérance par rapport aux religions.
Oui.
Comme on le faisait au XVIIIe.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur la tolérance quand elle n'a rien à voir avec la religion ?
Ben, je crois que c'est le même principe, hein, je crois. En fait, on est pour la liberté d'expression politique. Voilà. Tous les partis ont le droit de s'exprimer. C'est pas une question de tolérance, d'ailleurs. Et aucun ne devrait être interdit tant qu'il ne constitue pas une menace sérieuse et immédiate. Voilà. Je vous donne un exemple. Ça fait au moins une bonne trentaine d'années qu'on est confronté à ce problème, c'est le problème du Front National. Régulièrement, j'ai vu des tas de gens, parce que je ne sais quel chef du Front National venait dans notre bonne ville d'Évreux, proposer de faire des manifestations contre. J'ai toujours été contre les manifestations contre le Front National. Le Front National n'est pas un parti fasciste. Le Front National n'a pas des bandes armées qui viennent casser les grèves, qui viennent attaquer les manifestations ouvrières. Ils ne chopent pas les leaders syndicaux en leur faisant avaler de l'huile de ristin comme le faisaient les squadristi de Mussolini dans les années 1919-1920. Ils ne sont pas armés et ils ne règlent pas leurs comptes sur les docks avec la CGT, comme c'était dans le port de Hambourg, où ça se réglait au pistolet et à la mitraillette. Hein. On a un parti qui défend des idées qu'on peut condamner, qu'on doit condamner, mais qui est un parti constitutionnel qui ne met pas en cause l'ordre républicain. Donc il n'y a rien à dire. Moi, je suis pour discuter avec tout le monde, tant qu'ils ne mettent pas en cause l'ordre républicain. De toute façon, toute personne qui est prête à m'entendre, je ne suis pas à discuter avec elle. Tant qu'ils ne me tuent pas, moi, je vais discuter avec tout le monde. Hein. Vous voyez, c'est quoi. Et... Comment ?
Méfie-toi, Socrate,
il sait
quand même.
Ouais, je ne suis pas Socrate, alors ça va, je risque moins.
Alors, question.
Mais, dans tout le débat, ce qui me surprend toujours, c'est la problématique que vous avez évoquée sur la relation homme-femme, et la place de la femme dans la société, qui est quand même une avancée majeure, mais très récente, dans les pays occidentaux, on peut le dire, qui est très récente.
Non.
Semble-t-il.
Non. Pas d'accord. C'est pas très récent. Ça dépend de ce qu'on entend. Alors on nous dit toujours, ouais, la femme en France n'ont le droit de vote que depuis 1945, et les femmes mariées n'ont le droit d'avoir un métier sans l'autorisation de leur mari que depuis 1965.
D'accord.
Par exemple.
Mais symboliquement puissant, fort, ça.
D'accord. Mais premièrement, la monogamie, c'est pas rien. Je sais bien que l'épouse du premier ministre turc, le nouveau sultan Erdogan, dit « Le harem, c'était une bonne école de vie. Fermez les guillemets. La Turquie va rentrer dans l'Europe, paraît-il. Hein » Donc, lui a sous-traité le problème des réfugiés pour quelques milliards d'euros. Bon. Mais si on prend la place des femmes, vous pouvez regarder toute l'histoire. D'abord, vous avez des reines, vous avez des femmes nobles qui jouent un grand rôle historique. Et si vous prenez la France, pas ailleurs, hein, peut-être, mais en France, au XVIIIe siècle, les femmes jouent un rôle majeur sur la scène intellectuelle. Les salons de Madame de Lespinasse, par exemple, le rôle de Madame du Châtelet, Madame du Châtelet qui a enseigné à Voltaire ce que Voltaire a peiné à apprendre en matière de science, parce que la tête penseuse des deux, c'était elle, hein. Bon, la tête scientifique, en tout cas, elle joue un rôle considérable. Et on a pris l'habitude dans ce pays de la conversation des hommes et des femmes. Et ça depuis longtemps.
Montesquieu en parle beaucoup.
Montesquieu en parle aussi, oui, bien sûr. Et donc on ne peut pas dire que c'est très récent. Les femmes ne sont pas... Nos rois n'avaient pas des maîtresses enfermées dans un harem. Même s'ils avaient beaucoup de maîtresses. Elles avaient des amants, en plus. Les reines avaient aussi des amants. Bref, c'était tout de même... Voilà.
D'accord, de ce point de vue, je vous rejoins complètement. Ok. mais il n'en reste pas moins. Il en reste quelque chose qui est en tout cas très surpris par le fait que les femmes ne semblent pas, dans le débat actuel, ne semblent pas. Alors peut-être aussi à cause du regard des hommes et du pouvoir des hommes qui restent quand même majoritaires dans l'exercice des responsabilités civiques, qu'on le veuille ou non, dans la société. En tout cas, je suis étonné que les femmes ne prennent pas plus de part dans le débat sur l'islamisme et sur la problématique que la femme joue là, dans le rôle de la femme dans l'islam.
Il y en a quand même pas mal hein, qui... Comment elle s'appelle ? C'est Fatia Boudjéa qui a écrit une série d'articles dans le Huffington Post sur Internet, qui a écrit beaucoup de choses intéressantes. Et puis, je vais prendre un exemple de gens que je n'ai pas l'habitude de soutenir, mais la ministre Laurence Le Rossignol s'est fait remarquer en disant qu'il faut arrêter sur la question du voile, quand elle s'en est pris à la collection Dolce & Gabbana, là, de tenues de fantômes. Et voilà, alors elle a dit quelque chose, elle a dit que les femmes, quand on nous dit que les femmes veulent elles-mêmes le voile, que c'est leur liberté, elle dit c'est exactement comme on disait que les nègres aimaient leur esclavage. Bon, qu'est-ce qu'on a retenu ? Elle a employé le mot nègre, qui là est évidemment parfaitement à sa place. Hein ? On parle de la traite négrière, et Aimé Césaire était pour la négritude. Tout de même. Eh bien non, on a retenu le mot nègre, et on a dit « Ah, Laurence Rossignol, sale raciste !» Et c'est une campagne infernale qui s'est déclenchée contre elle. Ben non, elle avait raison. Voilà, je ne dis pas souvent du bien d'un ministre socialiste, mais pour une fois, je vais dire du bien de Laurence Rossignol. Elle avait raison. Voilà, et il y en a beaucoup qui se manifestent quand même. Hein. Par contre, vous avez, il y avait quelque temps sur Internet une excellente vidéo où il y avait Plenel dans un débat qui était en train de défendre pourquoi il fallait être tolérant vis-à-vis du voile, etc. Et il y avait une série de femmes d'origine immigrée qui l'ont mouché, mais alors un vrai plaisir. Hein. Voilà, parce que ceux qui sont, aussi on pourrait remarquer ça, hein, les maîtres à penser de la lutte contre l'islamophobie, c'est essentiellement des mecs, hein, faut bien le dire. Parce que ça ne les gêne pas. Ben bah ouais.
Vas-y.
Je voulais dire pour la suite de l'histoire, dans le monde islamique, Mohamed a eu l'imprimatur par Khadija, sa femme.
Oui.
C'est sa femme qui lui a dit oui, tu peux écrire ce que Mohamed te adapterait pour te dire. C'est Khadija, c'est pas lui-même qui a pris l'ascendant sur la femme, c'est le contraire.
Et d'ailleurs, à ce propos, il y a Fethi Ben Salma, psychanalyste tunisien, qui a écrit, moi j'ai oublié le titre de son livre d'ailleurs, c'est assez vieux, c'est 2001-2002, justement il reprend tout ça, et justement la femme qui dévoile, la vérité, et qu'on va voiler ensuite, parce que surtout, enfin, c'est très intéressant. C'est une analyse là aussi au niveau du texte, c'est très intéressant et très érudite.
Je trouve que vous êtes, vis-à-vis de l'islam, vous traitez ceux qui essayent de réfléchir, enfin, de faire évoluer l'islam, vous les traitez de façon anecdotique. Et en même temps, vous dites qu'il faut soutenir Kamel Daoud, etc. Et à un autre moment, vous dites, en fait, on a l'impression que vous pensez que l'islam n'évoluera jamais, quoi. Ne peut pas évoluer. Je ne sais pas, quelle est votre position?
Alors, il y a justement, par exemple, Marie-Pierre parlait de Fethi Ben Salma, il y a un bon nombre d'intellectuels de très grande valeur. Ça, c'est incontestable, hein. Comment il s'appelle celui qui était sur France Culture?
Medeb.
Abdelawan Medeb, par exemple, et beaucoup d'autres, qui, et tous, disent ce qu'il faudrait, c'est une rupture aujourd'hui. Une rupture. Ils disent qu'il faut balayer ce vieil islam qu'il est. Voilà. Ce que je crains, c'est que ces intellectuels qui sont très très occidentalisés, qui sont pénétrés de la philosophie, des sciences, de la psychanalyse, hein, dans le cas de Ben Slama, par exemple, soient extrêmement minoritaires. Voilà. On aurait pu avoir...
Ils sont minoritaires ponctuellement, mais dans le long terme, ils sont majoritaires.
Je ne suis pas sûr de ça. On aurait pu avoir ça. Il y a eu deux périodes, voilà, dans lesquelles la responsabilité des pays occidentaux est engagée. On a eu, à la fin du XIXe siècle, à partir des années 1840 même, hein, à la fois une montée des nationalismes contre l'Empire ottoman, hein, c'est ce qu'exploite Laurence d'Arabie, par exemple, et un véritable réveil de la pensée arabo-musulmane, et qui, elle, s'orientait dans une direction nettement progressiste. Par exemple, la Tunisie est un des premiers pays à abolir l'esclavage, 1848. Bon. Qu'est-ce qui a cassé ce mouvement? Ben, c'est le fait que, comme l'Empire ottoman est en difficulté, eh bien, les Anglais et les Français en premier... se sont dit, il y a bon, donc ils se sont précipités sur ces pays-là pour remplacer les Ottomans. Et donc ils ont cassé ce mouvement. Et là-dessus, évidemment, les impérialistes anglais et français en tête ont une responsabilité absolument écrasante, hein, dans le devenir de cette affaire. Il y a eu un deuxième moment. Si vous vous souvenez, les années 45 à 70, hein, en gros. Oh, c'était très compliqué, hein. Je n'ai pas envie de faire l'apologie de Nasser, ni du premier Bass, etc. Mais vous aviez tout de même des partis qui... alors, ce n'était pas tout à fait le cas de Nasser, mais le Bass est un parti laïque. Hein. Le Bass, qui était commun à l'Irak et à la Syrie, est fondé par un chrétien. Ces partis ont laissé quand même se développer une certaine liberté intellectuelle, et peut-être la possibilité d'une véritable réforme. Ça a été possible. Et puis, une véritable liberté. Des gens qui n'ont pas cessé d'être musulmans, mais les filles pouvaient se promener en mini-jupe sans que ça gêne personne. Regardez les photos de Kaboul en 70, vous croiriez sur la croisette. C'est fou. Bon. Et puis, on a eu... Alors là aussi, le rôle des Occidentaux est considérable. En fait, l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Parce que il y a un foyer à tout ça. Il faut quand même désigner les responsables, c'est pas un mouvement qui est né comme ça. Il y a un foyer, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a dépensé des milliards de son pétrole pour éditer des livres, payer des prédicateurs à travers tout le monde. Ils ont organisé, l'Arabie Saoudite, financé, monté une guerre qui a fait plus de 100 000 morts en Algérie avec le fils. Le fils, les types du fils, ils roulaient dans des Mercedes saoudiennes. Je veux dire, ces gens-là, il y a des responsables derrière. Il y a des gens, il faut les désigner. Et les responsables de tout ce bordel, c'est les Saoudiens avec la complicité des Américains. Voilà, c'est clair. Les Américains n'ont jamais caché qu'ils préféraient une domination sunnite à toute autre solution. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est eux qui ont monté Al-Qaïda, quand même. Voilà, alors après, évidemment, vous lâchez un chien enragé, il finit par vous mordre, ça arrive. Hein, mais c'est quand même eux qui ont été chercher Al-Qaïda, qui l'ont financé. Et puis, la famille Bin Laden, qui est une des principales familles saoudiennes, n'a pas financé l'un de ses rejetons sans que le roi d'Arabie Saoudite soit au courant. C'est pas des pays dans lesquels on fait ce qu'on veut, hein. Voilà. Donc c'est eux qui ont monté ça. C'est les Occidentaux qui ont financé les talibans. Voilà. On dit même qu'aujourd'hui encore, il y a des officiers britanniques qui entraînent Daesh. Alors à vérifier. Mais Daesh a été armé comment? Comment ça s'est monté tout ça? Comment Daesh a pu avoir autant d'argent? Parce qu'on les a laissés vendre leur pétrole. Qui l'achète leur pétrole? Ben bien nous. Comment ils peuvent communiquer sur Internet? Tiens, je vous pose une bonne question. Si vous voulez faire communiquer sur Internet, vous passez par satellite. Vous pouvez passer que sur un satellite que si vous avez loué un satellite. Et si vous avez des antennes, comme par hasard, au cours des dernières années, la vente d'antennes à la Turquie a explosé pour les internets satellitaires.
Donc, je ne sais pas du tout qu'il faille lutter et mettre un coup d'arrêt, comme vous dites. Ah ouais. Je pense quand même que les gens, petit à petit, regardez ce qui se passe en Tunisie, ils essayent de lutter, ils les aider. Oui. Le peuple ne va pas spontanément,
non.
Ou alors avec des problèmes de des gros problèmes économiques éventuels. Oui. Mais sinon, ils ne vont pas spontanément aller dans cette obscurantisme. Donc je crois qu'ils pouvaient être un peu plus optimistes, si on peut. Mais
oui,
je crois qu'il fallait muter, mettre un coup d'arrêt, comme vous dites. Je suis d'accord.
Oui, allez-y.
Il y a un autre problème aussi. Parce que vous parliez des Lumières au XVIIIe siècle. Mais dès le XVIIIe siècle, il y a aussi le messianisme juif qui ressort. Et Henri Laurence, dans son livre sur la Palestine, montre bien qu'il y a, dès le XVIIIe siècle, une convergence des Occidentaux et du monde juif vers ce retour que le Messie est attendu par le monde juif. Et toute la stratégie politique actuelle doit être prise en compte avec ce problème de messianisme juif qui est quand même important en Israël. Il y a quand même un problème politique grave et là, on n'en parle pas beaucoup de ce problème-là. Mais dès le XVIIIe siècle, Henri Laurence avait commencé à montrer qu'il y avait une convergence de ce problème juif qui est quand même, le monde juif, c'est quand même le départ du monothéisme avec ensuite le christianisme et l'islam. Et cette question-là des trois religions monothéistes est quand même le point convergent actuel. Et on ne peut pas. C'est un problème qui doit être pris en compte par les politiques. Et quand vous contestez le problème de la tolérance et des lumières, il y a en inverse le côté justement religieux qui vient balancer ce problème et qui doit être pris quand même en compte. Parce que il y a le côté dernièrement on parlait des prophéties de Malachie dans le monde catholique. Je ne veux pas faire l'apologie de cette prophétie, mais dans l'histoire, c'est la fin des temps, la prophétie de Malachie. On a quand même un problème où les problèmes de nature, les problèmes sociaux, les problèmes mondiaux montrent quand même qu'il y a un grave danger sur la société mondiale. Et globalisation, la politique de la globalisation est quand même quelque chose qui est problématique parce que derrière il y a aussi la finance. Parce que quand vous financez l'Arabie Saoudite et les Américains qui font un jeu avec les armes, parce que tout est basé sur cette. Et là, il y a quand même. C'est des questions que je lance, toutes des réflexions, des choses comme ça, mais.
Je ne sais pas trop quoi dire. Hein.
Non, mais c'est simplement pour poser des. Parce que c'est aussi le problème de la tolérance, le respect de la vie, de la dignité de la personne. Parce que le matérialisme, quand on joue avec l'humain, le matérialisme est aussi destructeur comme le spiritualisme. On l'a vu au XXe siècle.
En parlant de voile, hein, j'ai pas bien compris le rôle du voile de l'ignorance que vous évoquiez.
Ça, c'est...
Oui, c'est le problème de la partialité. Hein. C'est... Si je décide quelque chose dans lequel je suis impliqué, ma décision ne va pas être impartiale. Alors, comment pourrions-nous décider collectivement de quelque chose impartialement? Ross, il dit, imaginons que nous ignorions tout nous-mêmes. On est de purs êtres de raison. Mais au fond, c'est ce que dit Rousseau sous une autre forme et son contrat social. Contrat social, c'est une fiction, Rousseau le dit. Et dire, il faut imaginer que l'ordre politique est fondé par une assemblée d'individus dans lequel chacun se donne tous ses droits aux autres. Donc il renonce à lui-même. C'est exactement... Le voile d'ignorance de rôle, c'est la reformulation, mais vraiment presque directe, du contrat social de Rousseau, hein, de ce point de vue-là. Parce que si je me donne à tous les autres, mes intérêts n'existent plus. Mais en revanche, les autres, je reçois une part de chacun. Et donc, on disparaît en tant qu'individu. C'est ça l'idée du voile d'ignorance. Voilà, et si je ne sais pas qui je suis, je vais prendre une décision. Alors, comme elle va me concerner, Rawls dit, je vais faire la stratégie du Maximine. Je vais prendre la meilleure des mauvaises situations pour minimiser les risques.
C'est qui me
désavantage, je crois, le moins dans tous les cas. Oui, voilà. C'est tiré... l'histoire de Rawls est tirée du fameux paradoxe du fameux jeu du prisonnier où on imagine comment deux prisonniers qui sont arrêtés par la police, ils ont le choix soit de collaborer avec la police, soit de nier. Et alors, suivant les cas, celui qui collabore avec la police, si son copain nie, son copain prendra tout et celui qui collabore avec la police risque d'avoir très peu de peine. Principe américain du marchandage. Si les deux nient, on n'a pas grand-chose contre eux, donc on les condamne un petit peu. Et puis si les deux avouent, ils sont condamnés tous les deux. Et là, on s'aperçoit que la moins mauvaise des stratégies que devraient choisir rationnellement nos deux prisonniers, c'est de nier tous les deux. Ça sert annexement à justifier l'idée que la coopération est toujours préférable au fait de faire cavalier seul. Voilà, c'est... Alors ça, c'est toute une partie des réflexions des philosophes, surtout américains, qui ont essayé de penser des modèles de construction des règles sociales à partir de la théorie des jeux, et Rawls est là-dedans hein, aussi. Il utilise aussi d'autres ressources, comme la notion d'optimum de Pareto, par exemple. Mais c'est intéressant, Rawls, à lire. Moi, je suis assez critique vis-à-vis de Rawls, hein, j'ai fait... depuis longtemps, dans le bouquin que j'avais fait en 2001 sur morale et justice sociale, une partie qui consacre à l'analyse critique de Rawls. Je suis assez critique, mais en même temps, c'est quelqu'un que j'ai pris plaisir à lire et qui m'a éclairci les idées. Hein. Je trouve que c'est un auteur intéressant.
Parce que le principe de sa théorie, c'était de dénoncer les méfaits de l'utilitarisme.
C'est oui, ça, mais... tout à fait, oui. Il dit l'utilitarisme ne peut pas être le fondement d'une société bien ordonnée. Il donne une raison très convaincante. Il dit l'utilitarisme repose sur le principe du plus grand bonheur du plus grand nombre. Donc il admet le principe du sacrifice. Or, dit Rawls, la justice suppose que les droits des individus sont inviolables. Si on admet le sacrifice, c'est qu'on admet que les droits de quelques-uns peuvent être violés au bénéfice du plus grand nombre. Donc il dit refus de l'utilitarisme. Effectivement, il se réclame de Kant, matinée d'apports libéraux, il y a un petit peu de Stuart Mill. Par ailleurs, c'est un auteur qui a enseigné la philosophie morale, il a écrit un livre. Ses cours de philosophie morale ont été publiés, c'est assez intéressant aussi. Et il a reformulé le traité de paix perpétuelle de Kant pour aujourd'hui. Il essaie de penser qu'est-ce que serait une société juste à échelle internationale, qu'est-ce que serait une société des nations. Donc c'est au moins stimulant. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec, et c'est mon cas, je n'ai pas beaucoup de points de désaccord, mais c'est stimulant.
C'est quoi la laïcité ouverte ?
La laïcité ouverte, c'est qu'il faudrait redonner un espace public aux religions. C'est ce qu'avait demandé notre précédent président, encore qu'on ne sait pas si ce n'est pas toujours le même. Mais... Oui, c'est ce que le maire adjoint d'Évreux nous a opposé, oui. Ben oui, à Évreux, je vous raconte une petite anecdote, effectivement. La libre pensée, dont je ne suis pas membre, avait demandé une salle à la mairie d'Évreux. Voilà, donc avant, il n'y avait pas de problème pour avoir une salle. Et là, le maire adjoint d'Évreux a répondu, j'ai lu les statuts de la libre pensée. La libre pensée dénonce les religions comme des superstitions. Donc c'est contraire à la laïcité, car vous attaquez les religions, or la laïcité reconnaît les religions. Donc on ne vous prête pas de salle. Et la laïcité ouverte, c'est justement l'inverse de la loi laïque, parce que la laïcité dit, nous ne reconnaissons aucun culte, alors que les partisans de la laïcité ouverte disent, la République reconnaît tous les cultes. C'est le contraire, exact. Et l'Observatoire de la laïcité, dirigé par M. Bianco, est un spécialiste de la laïcité ouverte. Et il a organisé des soirées du vivre ensemble, etc., etc.
La laïcité ouverte, c'est un peu le dialogue interreligieux.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, la laïcité version Bianco, si on fait une soirée avec des jeunes musulmans, des jeunes catholiques, des jeunes juifs, éventuellement, on va inviter... à mécréant là, mais voilà.
L'État a des partenaires.
Oui.
Hein, les différentes religions sont des partenaires avec lesquels il est en pourparler, pour construire le vivre ensemble.
Il y a quand même une anomalie historique, celui du Concordat.
Ah oui, bien sûr, tout à fait.
Comment on peut encore tolérer ça?
Absolument, vous avez parfaitement raison. Est-ce qu'on trouvera un jour une majorité décidée à mettre fin à cette anomalie?
On entend parler très
peu. Mais bien sûr, oui, oui. Ah oui, c'est. Statut concordataire, c'est.
On a même pu entendre qu'il s'agirait d'étendre.
Ouais.
Les règles qui existent dans ces régions-là à toute la France.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Oui, mais ça fragilise
Ah, bah, ça serait la faire sauter.
Oui, mais bien sûr. Oui. Le concordat est contraire à la loi de 1905. Hein. Et la République étant une et indivisible, je ne sais pas comment on arrive juridiquement à concilier les deux. Hein.
Oui, le concordat, c'est l'idée que, effectivement, l'État reconnaît officiellement un certain nombre de cultes et
les finances.
Elle reconnaît officiellement un fait historique, c'est-à-dire que l'occupation allemande a mis en place.
Oui, mais avant, du temps de Napoléon.
1801.
Oui, c'est
Napoléon, 1801, effectivement, il reconnaissait trois cultes. Alors, le plus important, c'était le culte catholique.
Bon, en Alsace, il y a aussi...
Mais c'est vrai que le rabbin, le pasteur, le curé sont payés comme fonctionnaires.
Oui, ils ont une place dans la grille de la fonction publique. Hein.
Dans la loi de 1905, il y a quand même une partie qui n'est pas très laïque. C'est quand même que la collectivité finance, entretient les bâtiments religieux.
Parce qu'on se les a appropriés, les églises
saines. Oui, non, mais d'accord, mais après, c'est un héritage
cher. C'est à nous, ces églises, après tout. C'est nos ancêtres qui les ont construites de leurs petites mains, de leurs sueurs. Donc, c'est souvent des beaux monuments, donc c'est à nous. Et alors, on est vraiment très sympa, ce qui prouve que la laïcité française n'est quand même pas aussi terrible que le 17 versaire, parce qu'on laisse les catholiques y faire la messe dedans. Donc, on est gentils, hein.
Donc, la loi 1905, c'est une loi qui reconnaît la liberté de conscience, fondamentalement. Et par exemple, il y a dans l'article 2, il y a une clause qui stipule que l'État va financer les aumôneries
oui.
dans les lieux publics fermés. Fermés, hein.
Oui.
C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas suivre leur culte à l'extérieur, c'est-à-dire les prisons. À cette époque-là, les internats de lycée. Et puis, il y avait aussi autre chose, enfin bon...
L'armée,
effectivement. Et là, effectivement, dans la mesure où il est essentiel de donner les moyens aux individus de pratiquer librement leur culte, hein, qu'ils puissent pratiquer leur culte, effectivement, exceptionnellement, pour ces situations-là, l'État finance
C'est pas contraire. C'est pas une reconnaissance pour autant.
Je parlais pas de ça, je parlais du bâtiment.
Oui, mais je crois que je suis d'accord, mais les bâtiments, c'est parce que bon. Oui.
Il y a une grosse bataille qui était l'inventaire, qui s'est fait après.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent à gagner à l'époque. Et...
Oui. Oui, mais c'est. Après,
ils ont été après, alors que le clergé. Donc, ça, c'est. Et sous la Révolution, déjà, dans les premières années de la Révolution, il y avait une garde qui est prête à s'amenter, qui était rémunérée par.
Oui, mais parce que l'État voulait avoir le pouvoir sur l'Église.
Ouais. C'est-à-dire, pas être ce qu'ils ont fait de plus malin. Hein. Le statut des prêtres, c'est une très mauvaise idée, hein. Enfin, on ne peut pas refaire l'histoire à l'envers, hein, mais notamment, ça a précipité, parce que les prêtres, ce n'étaient pas les hauts nobles hein, de l'Église. Beaucoup étaient des gens proches du peuple, et le fait de vouloir les assermenter, on a précipité un certain nombre du côté de la contre-révolution. Ce n'était pas une bonne idée, hein, ils auraient dû les laisser. La laïcité, elle y aurait gagné. Hein, cette histoire de vouloir faire une espèce de culte lié directement à l'État... Bon, évidemment, on ne peut pas leur reprocher ça, parce que c'était...
Ça, c'était la conception voltairienne. C'est-à-dire que l'État devait contrôler les religions. Et donc, ce n'est pas du tout laïque, ça. C'est vraiment l'État qui contrôle. Hein. Et donc, c'était dans cet esprit. Hein.
Ouais. Alors que Spinoza, lui, dit, l'État s'en occupe pas. Il dit, si les religions veulent se faire des bâtiments et tout, qu'ils se débrouillent... Faut pas les persécuter, parce que si on les persécute, après ils nous embêtent. C'est à peu près ce que dit Spinoza. Non. Ah, je résume, là je traduis, mais c'est en gros ça. Mais voilà, l'État, ça ne regarde pas. Il dit, il n'y a qu'une religion qui vaut, elle s'appelle justice et charité. Ça, c'est la religion de l'État. Vous rappelez ça, sécurité sociale, si vous voulez.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? D'un individu intolérant ? Ah !
J'ai beaucoup aimé votre comparaison avec l'association des pêcheurs. Je trouve que c'est excellent, ça résume bien tout. Mais par contre, j'arrive pas à me dire que le port du voile, pourquoi interdire le port du voile ? Enfin, je veux dire.
Et parce que je ne vous parlerai pas si vous étiez voilé.
Ben si.
Non.
Si, parce que
non, je parle qu'avec des gens dont je vois le visage, moi.
Non, mais je ne parle pas du...
Ah oui, non. Du... Non, non, parle... Enfin, parle... Non, on parle pas de... Ah oui. Attendez, oui.
Moi, je parle du voile.
Oui. Ah non, mais celui-là n'est pas interdit dans l'espace public. Non. Ce qui est interdit, c'est le masque.
Oui. C'est plus compliqué que ça tout de même, parce que dans l'espace public, dans la rue, c'est pas interdit, mais à l'école.
Oui.
Voilà, c'est parce que c'est considéré comme une marque ostensible d'appartenance religieuse.
Oui, puisque les élèves doivent se découvrir.
Non.
Elle l'enlève à la rentrée du lycée. Bon, pas de signe ostentatoire, voilà, c'est le principe, pas de signe ostentatoire.
Ben c'est juste dans les établissements scolaires, qui est à l'intérieur de l'établissement.
Mais vous savez, il était interdit dans la fonction publique pendant très longtemps. Oui, en quoi c'est gênant ? Enfin, je veux dire, non, franchement, moi-même, j'arrive pas à me convaincre. Alors que, évidemment, je suis une femme, je me rends bien compte de que c'est peut-être mettre dans l'embrasage, etc. Mais par ailleurs, je lis aussi que les femmes le font volontairement.
Pas les jeunes, il y a beaucoup de jeunes de nos élèves et qui le mettent pour ne pas être embêtées. Elles
nous disent qu'elles le mettent volontairement. Bah oui, elles le mettent
volontairement. Mais pourquoi elles le mettent volontaire ? Elles nous disent également que c'est... Oui,
puis il est possible qu'il y en ait qui revendiquent. Hein,
Oui, bien sûr. C'est un signe distinctif aussi. Mais alors,
moi, je mets bien les lunettes
sur la tête.
Oui, ça ne veut pas dire que ça.
Ça ne veut pas dire que c'est...
C'est
vraiment le voile. Non,
passer inaperçu.
C'est là que je me dis, bon, c'est aussi... Voilà.
Non, mais on parle du grand, du voile intégral ou du voile du foulard. Mais dans la rue, c'est possible. C'est autorisé.
Problème. Ça, ça pose pas de problème. Tous nos élèves doivent être tête nue. On n'en veut pas avec la casquette, ni une cagoule, ni quoi que ce soit, ni la capuche. Voilà, donc tout le monde est tête nue. Voilà, c'est clair, net. Voilà, c'est tout. C'est une mesure d'ordre public et ça évite toutes ces distinctions. Voilà. Et aussi, vous dites, il y a le problème, on met le doigt dans l'engrenage aussi, il y a un moment donné. Il faut... voilà. Après, dans la rue, évidemment, on peut mettre un foulard, un chapeau, une casquette, mais moi, je ne sais pas, je ne fais pas cours avec une casquette ni un chapeau, bon, je n'ai pas de chapeau, de toute façon. Je ne fais pas cours avec un chapeau. Voilà, on a une certaine tenue obligatoire, et puis c'est tout. Moi, personnellement, je vais vous dire, à un moment donné, j'étais même pour qu'on rétablisse l'uniforme et la blouse obligatoire dans les lycées, comme ça, c'est plus le problème. Bien sûr, ben ouais, comme ça, au moins tout le monde... Mais oui, et ça avait des tas d'avantages. Oui, moi, j'ai porté la blouse de la 6e à la terminale. D'abord, c'est pratique, une blouse, on peut mettre des tas de choses dans les poches. Quand on fait des TP de physique ou de chimie, on peut se salir, c'est pas bien grave. Et puis, on était tous pareils. Voilà. À l'extérieur, on était différents. À l'intérieur du lycée, on était tous pareils. Moi, je trouve ça très bien. Évidemment, on ne peut plus demander des choses pareilles. Quand des gens comme moi disent ça, on a vraiment l'air de vieux cons. Mais bon, on n'y peut rien. Mais franchement, il y a un moment donné où il y a une espèce de volonté de se singulariser à tout prix qui est purement narcissique.
Mais dans beaucoup de pays, ils ont des uniformes.
Absolument. En Angleterre, ils ont encore beaucoup d'uniformes. Hein.
Dans les trois pays.
Oui, tout à fait.
Aux États-Unis,
même oui. En Afrique. Oui, oui, tout à fait. Oui. Je ne sais pas pourquoi on les a abandonnés, moi. Évidemment, ça ne fait pas le bonheur des marchands de fringues, si on rétablit la blouse.
Bien. On peut considérer que la séance est close. Et merci à Denis.
De rien, merci.